On aimerait ce soir parcourir avec vous un certain nombre d'histoires qui peuvent illustrer la manière dont on peut librement répandre autour de nous cette paix dont on parlait avant hier soir. On est vendredi, jeudi, mercredi soir. J'aimerais commencer par dire que le but de la soirée, c'est qu'on arrive à une définition de ce que c'est que l'honneur. Hein, on va arriver à une définition, donc ça fait partie de notre parcours. Et pour arriver à cette définition, c'est bien qu'on puisse d'abord prendre contact d'une manière informelle, d'une manière illustrée, etc., avec cette réalité. Juste avant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, l'honneur peut se pratiquer en gros à deux niveaux. Le premier, c'est à l'intérieur de l'Église, et puis le deuxième, c'est vers l'extérieur de l'Église. Mais la réalité, c'est que quand on pratique l'honneur vers l'extérieur de l'Église, ça nous amène à prendre un certain nombre de risques, ça nous amène à essayer des choses nouvelles, et c'est très important qu'on ait à l'intérieur de l'Église une zone de sécurité. Parce que si on prend des risques à l'extérieur et qu'à l'intérieur c'est tout autant risqué, ben ça il n'y a pas beaucoup de repos, si je peux dire ça comme ça. D'où l'importance de bien comprendre, de bien réaliser l'importance du sans comparaison, sans jalousie, sans infériorité, sans supériorité, sans crainte. Et surtout de réaliser que quand quelqu'un parmi nous prend un risque, qu'il ait du succès ou non, son risque, c'est mon risque. Son succès, c'est mon succès. Son échec, c'est mon échec. On est une famille, on est un corps, on est un peuple. Et je pense vraiment que le peuple hébreu avait intégré profondément ça lorsque on voit, par exemple, que la bénédiction sur l'un rejaillit sur l'entier du peuple, ou que la désobéissance d'un petit groupe génère quelque chose à l'ensemble du groupe. Et c'est là où cette relation, cette capacité relationnelle, telle qu'on la trouve dans la Trinité, est importante. Hein, si des humains disent du mal de l'Esprit Saint, le Père et le Fils sont atteints, au point d'être même assez sévères à ce niveau-là. Par exemple, au moment où Jésus dit « Voici, envoie-moi », je suis convaincu que le Père et l'Esprit sont autant déchirés et envoyés que lui. C'est pas l'histoire de Jésus et pas la nôtre. Vous saisissez ? Donc c'est important qu'on réalise bien ce point pour oser changer un peu notre attitude vis-à-vis de l'extérieur. Alors, ce soir, je voudrais commencer en continuant un petit bout à propos de l'esprit et de la paix. Alors, on ne sait pas si c'est une colombe ou un pigeon blanc, mais ça n'a pas d'importance. On l'a rencontré cet après-midi, puis il était sympa, alors on l'a photographié. On a deux textes bibliques qui, quand on les met côte à côte, nous donnent un certain nombre d'éclairages. Le premier des textes bibliques, c'est dans la Genèse, Alors, il faut juste que je prépare mon truc. Voilà. Genèse, chapitre 6, les versets 8 et 9. C'est le moment où Noé laisse partir la colombe. Alors, je vous le lis, hein. Bon, alors c'est toujours la même chose. Pourtant, j'ai noté les versets, mais c'est... Ah, mais c'est 6, voilà. Non, mais ce n'est pas les bons versets qui sont notés là. J'ai voulu préparer ça rapidement tout à l'heure. En fait, c'est 8. Là, j'ai dit 6, mais c'est Genèse 8, 8 et 9. Alors, corrigez si vous prenez des notes. Il nous est dit, donc après qu'il ait lâché le corbeau, il nous est dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. C'est pas toujours facile de traduire l'hébreu. Voilà. Littéralement, Noé lâche la colombe d'avec lui. Donc la colombe, elle est avec lui. Et c'est à partir de ce avec lui qu'il lâche la colombe. D'accord ? La colombe, c'est globalement le symbole de l'Esprit Saint et le symbole de la paix. On est d'accord ? Il lâche la colombe. Elle revient car elle n'a pas trouvé où poser la plante de son pied. C'est assez marrant d'ailleurs. Hein. Les traducteurs auraient pu mettre la patte, mais on traduit la plante de son pied. Et Noé étend la main et il l'a fait entrer dans l'arche près de lui. Alors on pourrait dire près de, en tout cas près de sa personne, près de lui. Donc, ce mouvement de la colombe, elle part d'avec Noé et elle revient contre Noé. Ça va ? Si on met ce texte en parallèle, et vous savez que les Hébreux aimaient beaucoup, et les disciples de Jésus certainement aussi, aimaient beaucoup le côté reprendre les symboliques de la première alliance pour les traiter dans la deuxième. Et si on lit le verset, les versets 5 à 6 de Luc 10, en parallèle avec Noé, je vous les lis. « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. » Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un fils de paix est là, votre paix repose sur lui. Sinon, elle retournera sur vous, littéralement, ou vers vous. On a le même mouvement. Cette paix, cet esprit qui nous habite, dont on est plein, selon les normes du royaume, au point qu'on déborde, on peut l'envoyer... explorer, le libérer, et s'il trouve un endroit où se poser, il se posera, et s'il ne trouve pas, il revient vers nous. D'accord ? Donc je mets ça un peu en introduction de cette soirée. C'est un petit peu le côté introductif de la soirée. Alors maintenant, on met ça de côté, puis on y reviendra. Hein, parce que j'ai besoin d'ouvrir plusieurs fenêtres ce soir. Donc, je vous demande de garder avec moi les éléments ouverts. Deuxième fenêtre que j'aimerais ouvrir, on parle d'honorer les gens, on parle d'honneur à l'intérieur de l'Église, on parle d'honneur à l'extérieur de l'Église. Question, bibliquement, qui devons-nous honorer ? Parents, autorité.
Dieu.
Il y en a une série, je vous les mets tous. Jésus. J'ai pas mis de référence biblique parce que je pense qu'on doit être à peu près d'accord. On veut lui rendre honneur. D'accord ? Ensuite, les rois. 1 Pierre 2,17. Nos autorités. Et là, ça se complique. Déjà, comment honorons-nous ceux qui nous dirigent ? Par la prière. Comment parlons-nous d'eux ? Ben oui. C'est difficile. Mais c'est une réalité. Et je vous rappelle qu'à l'époque où Pierre écrit, les rois en question, c'est des persécuteurs. Mais il faut honorer les rois. On porte. Et les autorités de la synagogue n'étaient pas mieux. Avec Monique, on aime beaucoup porter la croix huguenote, parce que nos ancêtres étaient huguenots. Je vous rappelle que dans la croix huguenote, la couronne d'épines, les épines sont une fleur de lys. Le but étant de dire au roi, tu nous fais du mal, mais tu es notre roi. Donc il y a quelque chose là, en termes de changer notre mentalité, en termes de changer notre manière de regarder, qui est difficile, mais qui est une clé très puissante pour le témoignage de l'Église. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit au maire de notre ville, qui ne m'a pas répondu d'ailleurs, pour lui communiquer une vision que nous avions reçue pour notre ville. Et je me suis dit, il est l'autorité de la ville, donc il est le premier à devoir connaître ce que Dieu révèle. Donc je lui ai envoyé la vision. Pas de réponse, ok, pas de souci. Mais je trouve important de lui communiquer ça. Et ce n'était pas sous forme d'un « vous devriez faire », c'est sous forme d'un « Dieu est en train de bénir votre autorité, le travail que vous faites et la ville dans laquelle nous habitons. » Et puis, il y avait des éléments très précis. Nous, en Suisse, on vote beaucoup. Certains nous envient ça. Ce n'est pas toujours tout simple. Pour l'illustration, et j'aime beaucoup raconter cette histoire, il y a quelques mois en arrière, on a voté au niveau fédéral, donc au niveau le plus élevé, pour savoir si on avait le droit ou non de couper les cornes de nos vaches. Il faut juste réaliser, hein. Il y a des gens qui disent on aimerait bien voter, autant qu'en Suisse, c'est super. Ben, il faut se pencher sur ce genre de questions aussi.
Vous avez
ah oui, moi je trouve ça hyper drôle. On a voté il n'y a pas très longtemps pour savoir si on voulait diminuer notre temps de travail. On a refusé. Le peuple a refusé. Donc,
ils
sont bizarres, mais en attendant, il y a quelque chose avec le droit de vote, il y a quelque chose de la responsabilité de la gouvernance qui nous revient. Et à un moment donné, on ne peut pas juste considérer nos autorités comme des « ils ont qu'à ». Parce que c'est nous qui prenons les décisions. Et donc, quand on prend une décision, on ne peut pas prendre n'importe quelle décision qui pourrait poser des problèmes par la suite. Et ça discute. Comment je parle ? Nous, on est en train d'élire nos deux chambres, la chambre basse et la chambre haute, en ce moment. Comment je parle des sénateurs pour lesquels je n'ai pas voté. Comment je manifeste ma capacité à les honorer. Ça, c'est des vraies questions. Hein. Ce n'est pas une leçon. C'est juste pour dire la parole de Dieu nous demande d'honorer les rois. On aime obéir à la parole de Dieu. Comment le fait-on? Est-ce qu'on le fait? Ensuite, on doit honorer nos parents. Alors, ça fait... On vous l'a dit, ça fait de très nombreuses années qu'avec Monique, on accompagne des gens en relation d'aide, et on sait qu'il existe des parents pas faciles à honorer. On le sait bien. Néanmoins, ils sont la source de notre vie. Comment est-ce que je regarde cette source-là? Et comment est-ce que je gère ensuite les difficultés ou les joies, hein, parce qu'il y a aussi des parents super, ou les blessures, les cultures qu'ils m'ont transmises? Est-ce que j'en fais un sujet de, comment on dit, de grommelage? Vous comprenez le mot grommelage? Ouais. Ou bien est-ce que j'en fais un sujet de travail pour progresser? Comment est-ce que je fais ça? Ça, c'est toutes des questions ouvertes. Ça, c'est pour les hommes. Pierre nous dit qu'on doit honorer nos épouses. Là aussi, on fait beaucoup d'accompagnement conjugal. Et je peux vous dire, messieurs, que nous rencontrons beaucoup d'hommes qui ne sont pas capables d'honorer leur épouse. Ils sont capables de la critiquer, ils sont capables de la rabaisser, mais pas de l'honorer. Et c'est adressé aux hommes. Ce n'est pas la même chose pour les femmes. Il n'est pas dit « femmes, honorez vos maris ». Alors, il y a d'autres choses. Mais il est aussi dit au mari qu'on doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Moi, j'aime beaucoup dans les mariages prêcher sur ce verset. Après, on peut parler très facilement de la question de la soumission. Parce que se soumettre à une autorité qui nous aime comme le Christ a aimé l'Église, c'est OK. Oui, alors, par extension, les femmes. Et il faut quand même reconnaître que dans l'histoire, même récente, de nos églises, on n'a pas toujours honoré les femmes. On leur a donné des places inférieures. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire tous la même chose. Moi, je ne suis pas tellement un fan de l'égalité à tout prix. Mais entre laisser les gens dans l'infériorité ou être collaborateur dans l'égalité de valeur, il y a une nuance. On doit honorer les veuves et les orphelins. Ça, c'est Timothée qui le dit. C'est les plus pauvres de la société. Vous savez qu'à l'époque, une veuve était laissée avec aucun moyen de vie en général, et souvent elle était condamnée à la prostitution. Les orphelins, ben, dans notre société, il y en a beaucoup d'enfants à qui il manque un de ses parents. Comment est-ce qu'on honore ces gens? Et puis finalement, l'apôtre Pierre, il dit qu'il faut honorer tout le monde. Alors ça simplifie. Mais comme je suis un peu méfiant, j'ai fait une étude grecque du mot « tout ». Et bien le mot « tout » ici, il veut dire « tout ». On ne peut pas le contourner. Des fois, on aime bien, hein. Honorer tout le monde. Et ça rejoint la parole de Jésus qui dit « si tu aimes tes amis, c'est mi-clé. Si tu aimes tes ennemis, c'est costaud. » Ça, c'est traduction libre. Hein. Tout le monde. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur. Tout le monde. Même les inconvertis. Il y a deux jours, on était au Sainte-Marie de la Mer, là, hier. Ça passe bizarre. Et puis on s'est fait évidemment accoster par une gitane qui voulait faire des tas de choses avec nous. Comment est-ce que j'adore cette femme? C'est intéressant. Tout le monde. Alors j'aimerais vous donner quelques exemples. Et puis après vous allez comprendre comment est-ce que... Parce que finalement, honorer quelqu'un, c'est libérer la paix sur lui. Et la bénédiction. Et l'Esprit Saint. Et peut-être prier pour lui, prier pour sa guérison, le bénir. Et puis s'il peut recevoir, eh bien la colombe se pose sur lui, et puis il goûte quelque chose de Dieu, et puis s'il ne peut pas recevoir, ben, la colombe revient à nous. Prends pas de risque. Ça va ? Alors, c'est là où je vous raconte quelques-unes de nos histoires. Et si je vous raconte ça, c'est pas pour se mettre en avant. J'espère que vous avez compris que notre cœur n'est vraiment pas de dire « Nous, on est là, et puis vous, vous êtes là. » Notre cœur, il est de dire, à partir de ce qu'on a vécu, peut-être que vous pouvez trouver des inspirations qui vous rejoignent dans ce que vous vivez ou qui vous encouragent à faire des expériences. Alors, première histoire, c'est celle-ci. Il y a 7 ans en arrière, on a vendu notre maison, notre voiture, tout ça. On est parti 4 mois en congé sabbatique. On voulait être libre. Puis quand on est revenu, ben, il a fallu racheter une voiture. Alors on a racheté une voiture, et puis le garagiste était super. Et puis il avait mis un gros bouquet de fleurs pour ma femme quand il a livré la voiture. Je ne sais pas s'ils font ça en France, les garagistes, mais nous, on faisait ça. C'était super sympa. Et puis on était au milieu du garage, comme ça. Et puis, c'est Monique qui a le courage, souvent, de libérer la colombe. Et puis, mais là, je crois que c'est moi qui ai dit, mais je ne sais plus. C'était moi, là, hein, ouais. Mais souvent, c'est toi. Et je lui dis, mais monsieur le garagiste, merci beaucoup, c'est super. Nous, il y a une chose qu'on aime faire. On aime bénir les commerçants. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on bénisse votre garage et vous-même ? Alors, il nous a regardés. Puis il a dit oui. Alors, on était au milieu des voitures, du garage, tout ça. Et puis, on a incliné la tête et on a prié pour ce garage. On a béni l'atelier. On a prié contre les accidents. On a prié pour qu'il fasse des bonnes affaires. On a prié pour que son investissement lui rapporte. On a prié pour que sa famille soit bénie. On a prié pour qu'il rencontre le Seigneur. Et puis, on est parti. On a libéré quelque chose. À partir de là, s'il peut le prendre, ça se pose sur lui et ça porte du fruit. S'il ne peut pas le prendre, ça revient vers nous. Le problème, c'est que suivant dans quelle église vous racontez ça, et je ne sais pas comment vous recevez ça, on passe pour des tarés. Ou bien on passe pour des orgueilleux. Ou bien on passe pour des mauvais évangélistes parce qu'on ne lui a pas dit qu'il était pécheur et qu'il devait se repentir. On n'a pas commencé par là. La culture de l'honneur à l'intérieur de l'Église, elle se réjouit de toutes les bénédictions, les colombes libérées, la paix libérée, l'Esprit Saint libéré, les paroles de connaissance libérées, les prophéties libérées sur les gens. Et on se réjouit ensemble. Et quand il y en a un qui rentre, eh bien, on se réjouit plutôt que de se dire « Celui-là, là, il ferait mieux quand même de se la coincer. » Voyez ? Deuxième expérience, la banque. Ça, c'est très suisse. Il n'y a pas très longtemps, oui, il y a quand même quelques temps, mais enfin bref, on a dû rencontrer notre banquier, enfin, le monsieur en charge de notre dossier, parce que, comme on avait vendu notre maison, qu'on a racheté un appartement, il y avait des questions hypothécaires. Puis en Suisse, le système hypothécaire est compliqué. Je sais que ce n'est pas comme en France. Nous, on hypothèque une maison pour 100 ans. Donc, on va léguer à nos héritiers une dette. C'est ça qu'on va faire. Mais ce n'est pas très important en Suisse. Parce que derrière, il y a un bien immobilier qui est en général bien fait, costaud, et qui couvre la dette largement. Donc, on devait discuter avec lui, on a discuté avec lui, il nous a expliqué les solutions, il était sympa, intelligent, tout ça. Quand on a fini notre business, on lui dit, « Monsieur le banquier, il y a une chose qu'on aime beaucoup faire, c'est prier pour les gens qui sont dans le business. Est-ce qu'on peut prier pour vous ?» Est-ce qu'il y a un problème dans votre business pour lequel vous avez besoin d'une bénédiction ? Alors il nous a regardé et puis il a dit « Non, tout va bien, mais ma femme est malade. Une maladie non curable et évolutive. » Alors on lui a dit « On va prier pour votre femme. » Alors on n'avait pas le temps de le faire là parce que le rendez-vous arrivait au bout et puis il ne faut pas mettre les gens dans l'agacement. Mais on a pris le nom de sa femme et puis on l'a pris dans notre prière. Et aujourd'hui, quand on a un contact une fois par année où il vient vérifier si on est toujours solvable, eh bien, on lui demande « Et comment va votre épouse ?» Et puis il nous dit « Ah, elle a eu une bonne période » ou bien « Ça a été plus difficile » et on continue à prier pour elle. Et on veut libérer cette paix, cet esprit, cette puissance. On a vu hier, la paix, c'est incisif. C'est pas juste ni. La paix, c'est ce qui écrase l'ennemi, c'est ce qui lui fait peur. Et on libère ça sur les gens. Vous saisissez ? Je continue avec le même genre d'histoire, après j'en ai d'autres. Ça, c'est les magasins. Alors, on va tous dans les magasins. Alors, bon, j'ai des magasins suisses, mais j'ai quand même trouvé super cool. Hein. Donc, Lidl. Il y a deux ans en arrière, à peu près, on faisait nos commissions dans notre magasin préféré. Et puis, une des vendeuses dans les rayons, je l'entends qui grommelle, mais alors vraiment grommelle. On est tous foutus, on est foutus, je suis foutu. Elle était vraiment dans un état. Je me dis, il faudrait prier pour elle. Mais je vous ai dit, ce n'est pas moi le plus courageux. C'est Monique. Et puis, j'ai laissé passer. Puis Monique n'avait pas entendu la dame en question et je lui raconte. Et elle me dit, ah, mais il aurait fallu prier pour elle. Je dis, ouais, mais tu vois, quand même. Voilà. Et puis, du coup, on a décidé ensemble, si on la revoit, on priera pour elle. Mais ça, c'est bête parce que le magasin de quartier, si on la revoit, on est sûr de la revoir. Donc ça, c'est le genre d'engagement. Et puis, on est retourné quelques jours plus tard pour faire nos commissions parce que, voilà, on fait les commissions régulièrement. Et puis, elle était là. Alors moi, j'ai vite été chercher dans un rayon un produit difficile à trouver qui m'a pris 5 minutes. Et quand je suis revenu, Monique, tu avais déjà prié avec elle. Hein, tu avais demandé qu'est-ce qui allait pas, etc. Et cette femme était en train de pleurer. Et puis du coup, elle est partie dans l'arrière-boutique. Puis nous, on est restés là en disant, mince, qu'est-ce qu'on a fait ? Enfin, vous voyez, le doute tout d'un coup. Et puis elle est revenue au bout d'une, deux minutes. Puis elle a dit, vous comprenez, dans le règlement, on n'a pas le droit de pleurer devant les clients. Mais ça m'a fait tellement de bien. Et puis votre croix, ma grand-mère avait la même. Et puis on a pu continuer à la bénir. C'est facile de libérer la colombe en sachant que notre responsabilité, c'est juste de la libérer et puis de la reprendre si elle revient à nous. Et dans les magasins, je pourrais vous en raconter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on aime bien ça. Un exemple où je n'ai pas d'image, on était en hiver à la montagne, et là où on était, il y a un lac gelé. Évidemment, l'après-midi au soleil, tout le monde va se promener sur le lac gelé, c'est très joli, etc. Et puis on a vu à deux ou trois reprises une famille avec une jeune adolescente handicapée, mentale et physique, qui la poussait sur une chaise pas roulante, mais une chaise traîneau, comme ça, sur la glace. Et puis à un moment donné, plus tard dans une des journées, c'est comme si l'Éternel me disait, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. En fait, il y avait deux familles avec deux enfants handicapés, manifestement, ils faisaient leurs vacances ensemble. Et puis je me suis dit, bon, si je les revois, je leur dirai ça. Et je ne les ai pas revus. Et puis on est redescendu en plaine. Oui, toi, tu n'avais pas vu ça, c'est bon. Et puis, on est descendu en plaine, et puis on est remonté, et puis j'ai été mettre la voiture au parking, parce qu'à la montagne, on met les voitures sous des couverts pour ne pas devoir piler la neige pendant 3 heures le lendemain. Et puis, je les vois sur le lac. Alors, j'ai tracé à travers la haute neige, parce que je me suis dit, ce coup-ci, je ne veux pas les rater. J'étais sur le lac, et puis je me suis approché d'eux. Il n'y avait plus qu'une des familles, la deuxième était partie. Puis je m'approche, je leur dis, écoutez, excusez-moi de vous déranger, ça fait plusieurs jours qu'on vous voit, et puis moi je suis pasteur, et j'ai l'impression d'avoir reçu une parole de la part de Dieu pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous la dise ? Ah oui, volontiers. Et je dis, voilà, j'ai reçu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et le monsieur était seul avec la jeune fille sur le lac, sa femme n'était pas là. Et tout à coup, il se détourne de moi, je me dis, je l'ai blessé, enfin, Et puis, il appelle sa femme qui était dans un chalet au bord du lac, qu'il louait. « viens voir, etc. » Et puis, elle vient, et puis je répète le truc. Puis, il me dit « Ah, mais vous nous faites tellement de bien, c'est extraordinaire. On va téléphoner à nos amis qui étaient là avec nous tout de suite pour leur dire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Moi, j'ai quitté le lac. Je suis rentré tout joyeux. J'avais l'impression que la colombe n'était pas revenue vers moi. Vous saisissez ? Honorer tout le monde, c'est pas faire des grands salamalek, c'est pas faire je sais pas tout quoi, c'est juste libérer la grâce et la bonté de Dieu à l'extérieur comme à l'intérieur. Ah oui, tu me dis s'il y en a une qu'il faut que je saute, hein. Ça c'est Colmar au marché de Noël. Oui, on ne voit pas bien, hein, je sais bien, mais c'est ça, je vous promets, si vous regardez bien attentivement, c'est Colmar au marché de Noël. On est, avec des amis, on aime bien aller chaque année, un ou deux jours, dans les marchés de Noël. Puis là, juste avant de partir en congé sabbatique, on avait vendu notre appartement, tout ça, et on a été au marché de Noël, et puis à Colmar, et puis en se baladant, on a trouvé une boutique qui nous plaisait bien, puis quand on est entré dans la boutique, il y avait un objet qu'on a beaucoup aimé. C'était un lion en porcelaine, absolument magnifique. Puis nous, on aime les lions parce qu'on aime le lion de Juda. Et puis, on s'est dit, on devrait acheter ce lion. Puis après, on s'est dit, mais non, on part, on met tous nos meubles au garde-meubles. On reviendra au printemps et puis on achètera le lion. Vous voyez ? C'est intelligent, hein ? Ça, c'est Colmar au printemps. Alors, je vais vous dire une chose. Colmar au printemps, ça ne ressemble pas du tout à Colmar au marché de Noël. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de petits chalets, il n'y a plus rien. Et on était là et on cherchait ce magasin. Et on ne trouvait pas. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté sur le trottoir et puis on discutait les deux. On disait, mais il me semble, c'était quand même par là. Enfin, on était peut-être un peu bruyants même, hein, toi et moi. Et puis, il y a un monsieur qui sort d'un restaurant, juste là, et puis qui nous dit, vous cherchez quelque chose ? Et on dit, oui, quelque part par là, il y avait un magasin avec des objets, il y avait ce genre. Ah, mais oui, c'est Madame Attel, mais elle a vendu son magasin. Mais si vous revenez dans 15 jours, il y a un nouveau propriétaire qui va venir. Puis, nous, on dit, mais non, on voulait l'objet. Bon, donc. Et le magasin était fermé par une grille en fer forgé. Et tout à coup, on voit arriver, de derrière la grille, une dame, un peu palichonne, comme ça, un peu... Voilà, on sentait qu'elle avait un petit peu de peine à avancer. Puis elle se met de la conversation, elle dit, vous cherchez quoi ? On dit, mais on cherchait, nous, le magasin qui était là, il y avait des objets, il y avait un lion, on a beaucoup aimé ça. Elle dit, ah ben, elle ouvre la grille, elle nous fait entrer. C'était l'ancienne propriétaire. Et puis, elle nous amène dans le magasin et il n'y avait plus rien, à part une armoire au fond qui reste un peu là. Et puis, elle nous explique, vous comprenez, avec les chimiothérapies, moi, j'arrive plus, j'ai vendu mon magasin. Et là, Monique lui dit, madame, ah oui, puis elle nous dit encore, parce que ça, c'était le sommet, elle nous dit encore, puis demain, je pars pour consulter un rebouteux spécialiste en cancer. Puis Monique, elle la regarde et elle dit, madame, nous, on croit que Jésus peut encore guérir aujourd'hui. Est-ce que vous permettez qu'on prie pour vous ? Elle dit, oui. On a rarement eu non, hein, de temps en temps, mais rarement. Alors on s'est mis, c'était intéressant parce qu'on s'est mis, moi j'étais là, la dame était au milieu, Monique était à côté, comme ça, légèrement tournée vers elle. Et puis moi, j'ai fait ce qu'on m'a appris à l'école des pasteurs. J'ai fait une courte prière qui ne fatigue pas le malade. Vous voyez ? Puis quand j'ai fini, Monique a pris la parole et elle a fait une longue prière. Ah non, mais... Et dans cette prière, tout y a passé. Elle avait la bénédiction, elle a lié la maladie, elle a libéré la guérison sur les cellules, elle a lié l'ennemi, enfin, tout y a passé. Et moi, j'étais là, les yeux fermés, puis je me disais, aïe, 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 aïe. Allez, le courage. Et puis, quand cette manique a fini, j'ai regardé, la dame était toujours là.
C'est surtout ça, la dame était toujours là. Ça, c'est le bon.
Et puis, elle se tourne vers Monique, pas vers moi, hein. Elle se tourne vers Monique, et elle lui dit, ah, mais madame, pendant que vous priez, moi, j'ai senti une chaleur à l'intérieur de moi, quelque chose de fort. Et après, elle ajoute, vous avez des bonnes ondes. Alors Monique, il dit, mais ce n'est pas les ondes, madame, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous visite. Et puis on s'est arrêté. Et puis elle a dit, ah, mais il faut encore qu'on retrouve un objet, alors. Et puis elle va dans l'armoire, et puis dans l'armoire, il y avait le lion. Alors, en plus, elle nous l'a fait la moitié prix. Et le lion est chez nous, sur un rayon de notre bibliothèque. Libérez la colombe. Juste libérez la colombe. Après, il fait le travail. Après, c'est à lui de faire le travail. Nous, on est juste là, dans la grâce. Une grâce fantastique.
Mais ça ne m'empêche pas qu'on a l'occasion d'aller plus loin.
Oh, on va pas te gêner. Ça va bien sûr. D'ailleurs, tu lui as dit, c'est Jésus qui guérit aujourd'hui. Donc, voilà, mais vous imaginez bien, pour cette femme qui était en train de réaliser qu'elle venait de vendre son magasin, qu'elle a été malade gravement, que, peut-être que de goûter à la bonté de Dieu d'abord, c'est pas mal, quand même. Jésus, il faisait ça, hein. Il guérissait plein de gens qui n'étaient pas convertis. Plus tard, on a su qu'elle était décédée. Et ça nous a beaucoup attristés. Et on disait, mais Seigneur, on aurait tellement aimé que tu la guérisses. Je regarde le temps parce qu'il ne faut pas que je me laisse ça trop aller, hein, mais ça va. Un ange et un enfant. Ça, c'est une histoire qui ne nous est pas arrivée à nous, mais qui illustre l'honneur à l'intérieur de l'Église. C'est dans une grande église américaine, très grande, des milliers de membres, beaucoup d'enfants. Rien que les enfants entre 0 et 4 ans, ils sont 400. Bon, ça vous dit la grandeur. Il y a un pasteur qui est responsable de l'enfance. Donc ce pasteur, il a un grand dicaster. C'est un homme important dans l'Église. Et c'est lui qui nous raconte qu'il est une fois dans une réunion avec des enfants. Ils font un grand cercle, comme ça, dans la salle. Et puis tout à coup, le petit garçon, qui devait avoir 6-8 ans, qui est à côté de lui, qui lui tient la main, lui tire la manche, comme ça, et il lui dit, « Tu as vu l'ange là-bas, dans le coin ?» Alors le pasteur regarde, puis il ne voit pas. Et la question, c'est comment je vais honorer ce petit garçon. Alors il a eu beaucoup de sagesse, certainement inspiré de Dieu. Il se tourne vers le petit garçon et il lui dit, « Est-ce que tu sais pourquoi il est là ?» Puis le petit garçon lui dit, « Non. » Alors le pasteur lui dit, « Bah, va lui demander. » Et le petit garçon part, il revient, et il dit au pasteur, il m'a dit qu'il est là pour la guérison. Alors le pasteur a pris le micro, l'a donné au petit garçon, et lui a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui dirige la rencontre. Tu prends tes petits camarades, vous allez dans l'angle, et vous priez les uns pour les autres. Et ce jour-là, plusieurs enfants ont été guéris de la myopie. Il aurait pu réagir complètement différemment. Il aurait pu dire « je ne le vois pas » ou bien il aurait pu lui faire une bonne leçon de théologie sur les anges et la guérison, ou bien il aurait pu dire « non, comment est-ce que j'élève mon frère, même si c'est un petit garçon de 6 à 8 ans ? Comment est-ce que je le fais grandir ? Comment est-ce que j'honore sa foi ? Comment est-ce que je ne mets pas en doute sa parole ?» S'honorer les uns les autres. Vous saisissez ? Ça, voilà, c'est des petites histoires, j'en ai encore une ou deux, hein, je vais encore vous en raconter, mais moi, mon but, c'est qu'on réalise que cette culture du royaume, hein, le premier sera le dernier, si tu veux être grand, sois serviteur, c'est plein quand ça déborde, et tout ce qu'on a vu, hein, pendant ces deux premiers jours, ça peut se concrétiser dans libérer la colombe, qui, elle, va aller explorer le territoire. Et nous, on n'a pas besoin de le faire. C'est facile. Ça demande juste d'avoir une base vers laquelle on peut revenir, raconter et être encouragé. Quand j'étais tout jeune converti, on était un... Je ne sais pas s'il faut que je raconte tout le détail, mais je ne crois pas. Mais disons, en gros, on était un groupe de jeunes d'une paroisse réformée traditionnelle. On a été remplis de l'Esprit Saint alors qu'on ne savait même pas que ça existait. Et on était en feu. Et on voulait évangéliser. Et un dimanche après-midi, on a décidé d'évangéliser un des villages de la campagne genevoise. Alors on a décidé qu'on irait sonner à toutes les portes de ce village un dimanche après-midi pour annoncer l'évangile. Enfin, je peux vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas une bonne idée. Parce que le dimanche après-midi, vous voyez, au moment de la sieste, les gens ne sont pas très réceptifs à deux jeunes, un peu hirsutes, qui débarquent en disant « Est-ce que vous connaissez Jésus ?»
On faisait équipe déjà.
On faisait équipe déjà, oui. Le seul qui nous a ouvert, c'est un étudiant en physique, qui était lui-même chrétien, puis qui a eu peu pitié de nous, qu'il a ouvert sa porte pour qu'on puisse se réchauffer, parce qu'en plus, il pleuvait ce jour-là. Quand on est rentré, on était toute une équipe, hein, on allait deux par deux, selon la Bible, comme il faut. Quand on est rentré, on n'a pas trouvé d'encouragement. On était découragé. Personne ne nous a encouragés malgré notre échec. Et je peux vous dire que de ce jour-là, je ne suis jamais retourné sonner à une porte. Comment est-ce qu'on peut accueillir l'échec et s'encourager et se réjouir? Alors j'ai un petit film que je veux vous montrer parce que ça se passe en France. Alors bien sûr, pour un Suisse, c'est terrible de montrer Djokovic, on est bien d'accord. Je vous promets. Voilà. Mais c'est très beau. C'est en 2015, à Roland-Garros, donc à Paris, et Djokovic avait à cette époque-là gagné tous les grands chelems, sauf Roland-Garros. Et il arrive en finale, il tombe contre un autre Suisse qui s'appelle Wawrinka, qui était donné perdant à 10 contre 1, mais qui a fait un match de tennis, cette fois-ci, si vous aimez le tennis, retrouvez ce match et regardez ce match. Il a fait un match de tennis absolument incroyable et il a battu Djokovic. Et ce petit film a été tourné, je l'ai pris, au moment où on remet à Djokovic le petit plat de deuxième, c'est-à-dire le symbole de son échec. Et j'aimerais que vous écoutiez ce qui se passe dans les gradins. Le peuple de Paris fait un travail extraordinaire vis-à-vis de Djokovic. Un travail comme j'aimerais qu'on soit capable de le faire dans l'église quand on rentre d'une après-midi d'évangélisation en échec total. Ce serait super. Je vous laisse écouter. pense que si on avait été accueilli un peu comme ça, au retour de notre évangélisation du dimanche après-midi, on y serait retourné. Il y a quelque chose de puissant dans l'encouragement. Il y a quelque chose de puissant dans « Yes, bien essayé ». Mais on est tellement habitué à ne compter comme bon que les réussites et à souligner les échecs qu'on en oublie que l'important, c'est d'y avoir été. L'essai. Libérer la colombe. Et elle peut, ça peut tomber sur un endroit où il n'y a personne pour l'accueillir. C'est pas grave. On peut avoir la trouille et puis pas libérer la colombe au dernier moment. C'est pas grave. Dans la mesure où on est soutenu par une église qui nous honore. Vous voyez ? Honoré. Il faut quand même qu'on prenne un exemple de la part de Jésus, parce que les magasins, les banques, les machins, c'est bien, hein, mais comment Jésus a fait ça ? Alors j'ai un exemple un peu polémique, je vous avertis, mais moi j'aime bien ma lecture. C'est l'histoire des pharisiens qui amène à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous souvenez ? Ils ont traîné cette femme à travers la ville, ils arrivent au temple, ils la jettent littéralement aux pieds de Jésus, et ils lui disent, « La loi ordonne de lapider de telle femme, et toi, que dis-tu ?» Et l'évangéliste Luc, qui est très sympa, ajoute qu'il voulait l'éprouver. Ah, on avait compris quand même, mais bon, il nous le dit. Cette femme, elle est dans la honte la plus totale. Je vous promets qu'ils ne lui ont pas laissé le temps de passer chez elle pour vite se refaire une petite beauté. Si ça se trouve, elle était même dévêtue. Ça, on n'en sait rien. Mais quelque part, elle est couverte de peur et de honte. Son risque, c'est que dans les minutes qui suivent, elle meure sous des jets de pierre. Et c'est un risque sérieux. Et Jésus va la restaurer de toutes sortes de manières. Mais ça ne m'intéresse pas tellement de regarder comment Jésus va la restaurer. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Jésus va honorer les pharisiens. Moi, quand j'étais à l'école du dimanche, on nous apprenait dans cette histoire que Jésus avait bien eu les pharisiens, qu'il leur avait collé la honte. Et qu'ils étaient repartis tout caqueux. C'est une expression suisse. On comprend, hein ? Mais le texte ne dit pas ça. Le texte nous dit qu'ils sont repartis du plus âgé au plus jeune. On nous dit accusés par leur conscience. Pas accusé par Jésus, pas accusé par les disciples, pas accusé par la foule, pas accusé par la femme, mais dans un processus interne de prise de conscience. Ça veut dire en train de grandir. Vous saisissez ? Nous, quand il y a de la honte quelque part et de la peur quelque part, globalement, la seule chose qu'on sait faire, c'est les déplacer. On prend la honte qui est sur le petit que les grands sont en train de maltraiter, et puis on la jette sur les grands en disant « Vous n'avez pas honte ?» Vous saisissez ? Nous, on déplace la honte. On déplace la peur. Le petit qui a peur, la femme qui a peur, on va faire peur aux grands. On va leur flanquer la honte et on va leur faire peur. C'est notre manière de résoudre ce genre de problème dans notre logique. Dans la logique du royaume, Jésus fait tout autrement. Il dit aux pharisiens que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Est-ce qu'on réalise le risque que Jésus a pris? Il suffit qu'il y en ait un qui se sache ou qui se croit sans péché, et la femme est fichue. Et Jésus ne s'est pas mis entre les pharisiens et la femme en disant « Stop !» avec Pierre, le costaud, et puis Jacques, peut-être, je ne sais pas lequel était le plus fort. Pas du tout. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus fait confiance au processus interne de légalisme des pharisiens, ce même processus qu'il est venu combattre. Il fait confiance que les pharisiens vont traiter la question dans leur logique légaliste. Et il fait plus que ça. Parce qu'en plus, on nous dit qu'il gratouille le sol. Alors ça, c'est très intéressant. On a fait plein d'hypothèses sur qu'est-ce que Jésus pouvait bien faire par terre. Alors il y en a qui ont écrit que Jésus était en train de faire la liste des péchés des pharisiens. Vous voyez, puis qu'il écrivait à l'envers pour qu'ils puissent lire, hein, quand même, pas à l'endroit. Le texte ne dit pas ça. Certains ont dit qu'il écrivait la loi. Le texte ne dit pas ça. C'est d'ailleurs très intéressant de voir comme les théologiens, et j'en suis un, sont capables d'écrire des lignes, des pages et des pages sur quelque chose qu'on ne sait pas. Par contre, ce que je sais, c'est que Jésus était en train de gratter le sol. Alors, je vais vous faire une démonstration, et pour ça, j'ai besoin d'un pharisien. Pour 2 minutes. Moi, je serai Jésus. Qui est-ce qui aimerait être le pharisien pendant un petit moment? Vous voulez venir vers moi? Vous risquez rien, hein? Mais quand on peut faire quelque chose ensemble, c'est très parlant. Vous voyez, vous êtes là, moi je suis Jésus. Si je vous disais quelque chose comme « Si vous êtes sans péché, jetez la première pierre et que je vous garde dans mon regard. » Qu'est-ce que je vous donne comme liberté?
Ça m'a, quoi.
Ben ouais. Je vous contrôle. Oui, voilà. Mais maintenant, si je vous dis « Si vous êtes sans péché, jetez la première pierre et que je fais ça. »
Vous humiliez.
Moi, je descends, mais vous, vous trouvez plus de liberté. Parce que je ne vous bloque pas dans mon regard, je ne vous contrôle pas. Vous saisissez ? Merci, monsieur. Jésus, alors à d'autres moments, il a été sévère avec les pharisiens, il n'y a aucun doute. Mais là, il va faire en sorte que les pharisiens grandissent, la femme grandit, certainement la foule grandit, et nous, à travers cette histoire, on grandit. Ça, c'est une culture honorante. Prendre un risque. Alors vous me direz, c'est Jésus qui le savait. Oui. Puis en même temps, oui, puis en même temps, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Et à son baptême, l'Esprit est venu sur lui, comme nous on a reçu l'Esprit. Il ne s'agit pas de dire qu'on va savoir comme lui, mais je pense qu'on peut prendre des risques aussi en faisant confiance à ce Père et à cet Esprit qui ont collaboré avec Jésus et qui collaborent avec nous. Est-ce qu'on est capable de faire confiance à la théologie de ceux qu'on n'aime pas? Bonne question. Ça veut dire que Jésus, il a une confiance en eux, il a une confiance en l'action de Dieu en eux, même s'ils étaient légalistes, qu'ils n'avaient rien compris, puis quand même ceux-là de cette église-là, ils ne comprennent rien du tout parce qu'ils croient que, etc., etc. Dieu peut quand même agir, et il a une confiance en la capacité des pharisiens de répondre à l'action de Dieu. Même s'ils ne pensent pas comme moi. C'est puissant l'honneur. C'est très puissant l'honneur. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Je suis en train de dire qu'on doit défendre un système relationnel qui fait grandir. Sans comparaison, sans compétition, sans jalousie, sans peur, sans infériorité, sans supériorité. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous raconte un mélange des deux. Un mélange de l'intérieur et de l'extérieur. Ça vous va? Alors j'ai mis une petite image comme ça. Ça c'est pour moi, pour que je me souvienne. Mais vous, ça ne vous dit rien du tout. Mais vous allez comprendre. Je sais que votre église est initiée à ce qu'on appelle les chasses au trésor. Vous pratiquez ça toutes les semaines, régulièrement, c'est juste ou bien? En tout cas, vous l'avez fait. Et ça, c'est bien. J'aimerais vous rappeler le principe d'une chasse au trésor, parce que souvent, on oublie une partie, et justement, on oublie la partie importante de l'honneur à l'intérieur de l'église. Donc la chasse au trésor, ça se divise en trois phases. Il y a une phase où on se réunit pour se laisser remplir de la présence de Dieu au point de déborder. Il y a une phase où on va deux par deux, éventuellement trois, mais pas plus, parce que ça fait peur aux gens, pour chercher nos trésors. Et puis la dernière phase, la plus importante, on revient tous ensemble et on raconte ce qui s'est passé. Et c'est là où on fait Djokovic. Surtout s'il y a eu des échecs. Mais aussi quand il y a eu des réussites. C'est-à-dire qu'on s'encourage pour qu'on ait envie d'y retourner la prochaine fois. C'est important la troisième partie. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, je vous raconte parce qu'avec Monique, on a été invité à faire une chasse au trésor avec des étudiants de l'école du ministère du surnaturel, l'école biblique du ministère du surnaturel. C'est déjà un nom, je vous promets rien que le nom, ça dit un peu le genre d'école que c'est. Et je vous rappelle que moi, je suis un pasteur réformé. Comme ça. Ça, c'est moi. Je suis ça, moi. D'accord ? C'était des étudiants de deuxième année. Donc c'est ceux qui ont réussi la première de l'école biblique du ministère du surnaturel, rabat blanc, moi. Alors on est arrivé au moment où ils étaient réunis pour accueillir la présence de Dieu. Et moi, je regarde ça. Il y en avait qui étaient couchés par terre, il y en avait qui riaient, il y en avait qui étaient à genoux, il y en avait qui chantaient, il y en avait qui dansaient. Moi, je le rappelle quand même. C'est, moi, c'est ça. Il faut réaliser. Alors, bon. Cool. Et puis, à partir de là, tout d'un coup, le responsable, il y avait une septantaine d'étudiants à peu près, le responsable dit, maintenant, on écoute Dieu pour les indices. On cherche des indices, on cherche à entendre ce que Dieu nous dit. Hein. Pull rose, petit chien, boîte de la jambe droite. On cherche les indices de nos trésors. Alors je me suis dit, super, ça c'est bon, avec un papier, un crayon, je sais faire. Alors je me suis assis entre les étudiants et puis j'ai pris mon crayon et ça donne à peu près ça. puis à côté, ça donnait ça. Puis de l'autre côté, puis moi au milieu. Et là, on a cette prière qui monte. Au secours, Seigneur! Je vais avoir l'air ridicule, c'est moi le pasteur. Le pasteur, c'est moi, Seigneur, qui je t'ai consacré ma vie, c'est à moi que tu dois parler quand même un petit peu. S'il te plaît. Ça dure un moment comme ça. Et Dieu a été bon pour moi. Il m'a donné deux mots. Chaise roulante et ours. Merci Seigneur. Et puis là, le responsable dit, maintenant, écoutez ce que Dieu vous dit pour savoir où vous devez aller. Alors ça, c'est venu tout seul. J'ai noté Walmart, c'est un magasin en Amérique. Et puis c'est le seul magasin qu'on connaissait dans cette ville, donc je pense que c'était un peu triché. Mais bon, j'ai noté Walmart. Après, il a fait les groupes. Alors d'abord, il nous a séparés, au vilain. Et puis ensuite, il m'a dit, alors toi, tu iras comme stagiaire avec ces deux-là. Et moi, j'étais consacré à la cathédrale de Lausanne, devant le Conseil d'État et le Conseil synodal. J'ai prêté serment. Mais bon. Alors, mon chef de groupe, c'était un Californien avec des dreads, incroyable, une chevelure pas possible, une vingtaine d'années, tout bronzé, beau gars. Enfin, je pense, mademoiselle, mais j'imagine beau gars. Et puis, le deuxième de l'équipe, c'était un British qui était là. Mais, vous savez, un British 17 ans, mais very, very British. Mais British allumé. C'est assez spécial. Alors on était les deux là. Ils étaient les deux, puis moi je suis parti avec eux. Alors on est parti dans la voiture du Californien. Lui au volant, le second devant et le stagiaire derrière. Et puis on arrivait à Walmart, puis derrière il n'y avait pas beaucoup de place. Puis moi je prends un certain volume quand même, en tout cas en longueur. Donc il m'a fallu un moment pour m'extraire de cette voiture. Vous voyez, ce genre de voiture, il faut un chausse-pied pour entrer, puis un petit bouchon pour sortir. Alors je suis sorti, et le temps que je sorte, ils étaient déjà avec la famille de ce minibus, un van, et puis ils étaient déjà en train de prier avec, et la dame était déjà en train de pleurer. Genre machin. Puis je regarde, quoi. Puis tout à coup, ben, je ne comprenais pas tout, ils parlaient tellement vite, puis je suis assez mauvais en anglais. Tout à coup, c'était fini. Alors, ils ont commencé à cavaler en direction du magasin après le parking. Moi, j'ai suivi derrière, tout ce que je pouvais. On est entré dans le magasin, ils ont commencé à chercher leur trésor. Et moi, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Moi, le pasteur, master en théologie, pris de la faculté, premier prix de la faculté, j'étais à l'école. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est bon. J'ai plié ma feuille avec ours et puis. Et puis j'ai dit, je suis là pour apprendre. Alors j'ai dit, suivi, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il faisait, comment ça se passait, etc. Puis au bout d'un moment, derrière un rayon, apparaît un très vieil homme dans une chaise roulante avec un ours en peluche sur les genoux. Alors là, mon discernement spirituel est entré en matière et j'ai dit, c'est le mien. Alors je me suis approché et je lui ai dit bonjour. J'ai joué la carte exotique, ça rassure, j'ai dit, je viens de Suisse. On fait une chasse au trésor, vous êtes mon trésor, regardez, chaise roulante, ours. Est-ce que je peux prier pour vous? J'avais appris des autres pendant ce temps. Et puis il m'a raconté une immense salade dans un anglais, je ne comprenais rien, avec un accent pas possible et une voix tellement rauque que franchement, j'étais perdu. J'ai juste compris qu'il parlait de ses fils, un truc comme ça. Alors je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je prie, mais comment je vais faire? Alors je me suis dit, j'ai une bonne idée, ça c'est la sagesse de Salomon, je crois. J'ai dit, je vais prier pour vous, mais je vais le faire en français, parce que c'est plus facile pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a dit oui, puis moi, au fond, moi, je vais comme ça, je ne comprends rien à ce que je dis. Je ne peux pas aller idiot, quoi, vous voyez? C'est toujours hein, la peur. Alors je me suis agenouillé. À côté de son fauteuil roulant, j'ai mis ma main sur son épaule et j'ai commencé à prier, Seigneur, bénis cet homme. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit, mais bénis cet homme, rejoins-le. Seigneur, que ton esprit le visite. Et puis au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'étais moi à genoux devant un fauteuil roulant dans un magasin au rayon lessive. Alors j'ai ouvert un œil, personne. Seigneur, t'es bon. L'autre œil, personne. Ah, alléluia, Seigneur. Mais derrière moi, il y avait le Californien, il y avait le British, il y avait sûrement d'autres personnes, mais je ne les ai pas vues. Et à ce moment-là, le Californien, le chef, s'est approché de moi. Il m'a dit une phrase qui m'a transpercé le cœur. Il m'a dit, je suis fier de toi. L'honneur que ce jeune homme a prodigué envers moi m'a fait comprendre d'un coup, la pièce est tombée. J'ai dit, c'est ça qu'on doit vivre. C'est ça qu'on doit vivre. Il aurait pu dire mille autres choses. Mais il a juste dit ce qu'il fallait pour que j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, et que j'ai grandi. Ce qui est sympa, c'est que quelques mois plus tard, on a eu la visite d'un certain nombre d'étudiants de cette école, avec des leaders, et puis on les a emmenés manger la fondue. En fait, on a été un peu vache avec eux, parce que le matin, on leur a fait visiter la fabrique de chocolat, avec dégustation à gogo à la sortie, puis tout de suite après la fondue, vous voyez, dans ces deux. Mais bon, il ne faut pas faire ça, pas bon. Et le leader me dit, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ton séjour en Californie, tout ça. Puis j'ai dit, mais j'ai raconté la chasse au trésor. Puis à l'autre bout de la table, il y avait ce magnifique jeune homme, good looking, cheveux bien coiffés, tout ça. Et puis il me dit, c'était quand? Puis j'ai dit, ben, c'était en novembre de telle année. Il me dit, mais le Californien, c'était moi. Alors, ça m'a fait tellement plaisir. Alors, on a été faire la photo pour qu'on puisse s'en souvenir. J'ai encore le temps. Je voudrais vous montrer deux petits films. C'est la première fois que je les montre. Je ne sais pas s'ils sont parlants, mais ils parlent d'honneur dans le monde. C'est des extraits d'une enquête de Hercule Poirot. Vous connaissez Hercule Poirot, hein, Agatha Christie, tout ça, hein? Dans cette enquête, il est en concurrence avec l'inspecteur à la pipe, là dont j'ai oublié le nom, mais il va sûrement le dire dans le dialogue. Il est vraiment en concurrence avec, et ils vont faire un pari sur qui va gagner. Et puis évidemment que Hercule Poirot va gagner. Et la deuxième partie du film, c'est le moment où l'autre vient lui dire « tu as gagné ». Et je vous propose de regarder ça à la lumière des valeurs du royaume de Dieu. Alors c'est des petits extraits. J'espère que le son est assez fort, c'est la première fois que je l'utilise.
Mais je retrouverai l'assassin de Paul Renaud bien avant vous. Je vous le promets, vous verrez. Seriez-vous prêt à risquer votre réputation? Je ne prends aucun risque. Je vais gagner. Tenez, j'ai une idée. Que diriez-vous d'un enjeu, Poirot? Et quel va être l'enjeu de ce pari, Monsieur Giraud? À vous de choisir. Très bien, je vais vous le dire. Cette fameuse pipe que vous avez là, ma pipe? Oui, bien sûr, c'est un peu comment dire votre emblème. Si je découvre l'assassin avant vous, j'aurai gagné cette pipe. C'est d'accord. Et vous, quel est votre emblème, Monsieur Poirot? Que diriez-vous de votre fameuse moustache?
Voyez-vous, pas sérieux.
C'est le meilleur moyen de montrer qu'il est le meilleur. Si vous perdez, vous rasez votre moustache. Qu'en dites-vous?
Poirot.
Après l'enquête,
excusez-moi. Entrez. Monsieur Poirot, Monsieur Giraud, ceci vous revient. Vous avez gagné. C'est exact, monsieur. Mais gardez votre pipe. À partir de cet instant, chaque fois que vous l'allumerez, vous penserez à Hercule Poirot. Oui.
Parce que l'honneur, ça doit se pratiquer aussi dans des situations difficiles. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont il se réhabilite. La manière dont ils grandissent les deux, je trouve ça très touchant. Alors je termine avec une définition. Une définition de l'honneur. L'honneur, ça concerne des personnes. C'est important. Nous sommes des personnes. Des personnalités. Des personnes à l'image de Dieu qui est une personne. Des personnes libres. Ça veut dire qu'on n'a pas esclave justement de notre comparaison, de notre jalousie, de notre infériorité, de notre supériorité, de nos peurs, etc. Des personnes libres. Et on veut travailler à cette liberté. Puissante. Ça veut dire établi dans leur identité de fils et de fille. Nous sommes adoptés par le Père et ça nous donne de la puissance. Alors c'est une parabole, bien sûr, mais je trouve que l'attitude de Hercule Poirot est une attitude puissante. Et je trouve que l'attitude de l'inspecteur Giraud est une attitude puissante. Tous les deux, ils sont face à face, ils sont rivaux, mais ils se respectent profondément et ils grandissent tous les deux. Capables de répondre à leurs besoins mutuels. On parlait de l'encouragement, on parlait de la croissance, on parlait du besoin d'être aimé, du besoin relationnel, tout ce qu'on a dit tous ces jours. Capable de répondre à nos besoins. Je suis effaré de voir à quel point dans certaines églises, les relations ne répondent pas aux besoins profonds des gens. C'est par nos relations que nous répondons à nos besoins profonds. Capacité de faire des demandes, capacité de dire oui ou de dire non, capacité d'écouter, capacité d'accueillir, etc., etc., etc.
Répondre aux besoins de reconnaissance.
Répondre aux besoins de... Je répète, hein, pour besoin, capable de répondre aux besoins de reconnaissance, aux besoins de sécurité, tous ces besoins-là. Engagé dans un niveau élevé de respect et de responsabilité. Engagé, ça veut dire qu'on le choisit. C'est mon choix, je ne le subis pas. C'est moi qui m'engage dans le respect de l'autre et dans la responsabilité vis-à-vis de lui et ensemble vis-à-vis de l'extérieur. et à même d'accomplir une tâche commune dans une vision partagée. Ensemble, nous pouvons aller dans la même vision. La vision, c'est l'étoile. On ne l'atteindra pas, mais elle nous guide. Et on se laisse guider ensemble. Pour moi, c'est une bonne définition. Et je prends encore 2 minutes. Ça va, monsieur le président de la soirée. Ça va pour vous. Je prends encore 2 minutes pour un petit film. Alors, il parle à des gens, il ne parle pas à d'autres. Voilà, c'est pas grave. C'est un petit film qui montre une cavalière sur son cheval, deux personnes puissantes, différentes, respectueuses l'une de l'autre, répondant à leurs besoins mutuels et capables d'accomplir ensemble une tâche commune. J'aime assez ce petit film, c'est un peu Far West, mais ça fait.
This will be drawn 3, exhibitor number 3353, Wizards Baby Doll, owned by Greg Gessner of Strasburg, Ohio. Stacy Westfall will be right. Stacy would like to dedicate this ride to her dad, who went to live in heaven just 24 days ago. Thanks for teaching me to keep trying new things. Stacy Westfall.
I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options, and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it get you when you get that kind of news? Man, what you do? Like to have, and all of a sudden, going
de la différence. On n'a pas les mêmes rôles, on n'a pas les mêmes fonctions. Et c'est important que ni la jalousie, ni la crainte, ni l'insécurité, ni l'infériorité, ni la comparaison, ni la supériorité ne dirigent nos relations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église. Que la colombe vole au-dessus de vous et se pose. Amen. Amen.
Merci beaucoup à Monique et à Thierry. Je vous propose de terminer en priant. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tout au long de la soirée, j'ai eu l'impression que j'avais une faim ou une soif qui se creusait en moi. De vivre ça davantage. Seigneur Jésus, nous te remercions. Te remercions parce que tu mets devant nous un chemin, et c'est toi ce chemin. Nous avons soif de pouvoir y marcher. Nous avons besoin que tu nous prennes la main, parce que moi je ne suis pas sûr d'y arriver, mais j'aimerais bien. Merci notre Dieu, toi qui es le Dieu de paix. Merci Jésus qui est le prince de la paix. Et toi, Saint-Esprit, qui nous donne la paix, te remercions. Amen. Alors, je donne rendez-vous demain soir à 20h30 pour la quatrième soirée avec Thierry et Monique. Bonne soirée, bon retour.
Oh, joli!
Il y a une femme qui est veuve.